Le bouddhisme, c'est l'art de s'effacer.
Tu dis, toi, que le temps de notre vie, on est quelqu'un.
De s'effacer des vivants.
En disant ça, t'es sûr que tu ne mourras pas.
Et de regarder les choses se dérouler comme un spectacle.
Le bouddhisme, pour moi, c'est...
C'est un gros monsieur bedonneux rempli de bonnes intentions qui est là pour nous aider.
C'est le silence, mais sans abus de silence.
C'est la notion d'intégrité.
Le bouddhisme, pour moi, c'est une religion où ce que tu pries un gros dieu en pierre puis tu mets des fruits devant.
On en pratique tous sans savoir vraiment qu'est-ce que c'est.
Philosophie de comportement.
Quasiment n'importe qui peut être bouddha.
Le bouddhisme n'est pas une religion confessionnelle.
Faut que tu sois gros.
L'argent n'a pas d'importance.
Est-ce que tu restes assis toute la journée à recevoir des présents?
Il paraît qu'il y avait des fleurs qui ont poussé à la trace de ses peaux.
Moi, personnellement, je connais pas le bouddhisme, mais...
Je me sens éternel quand j'arrête de penser à moi.
Est-ce que vous allez vous faire couper les cheveux pour lui?
Comment dire son nom? Comment dire son nom de façon neutre, sans orgueil ou sans fausse modestie? Par exemple, Monique Pro. Je m'appelle Monique Pro. C'est très difficile. Au début, quand on s'intéresse à bouddhisme, sous quelque forme que ce soit, simplement à distance, disons comme moi, avec les livres, on a vraiment envie d'en faire quelque chose, de devenir quelqu'un de meilleur, plus accompli dans ce qu'on est déjà. Et il se produit quelque chose de très insidieux, c'est que cette espèce de travail sur l'esprit que tu fais, parce que le travail que tu fais, c'est finalement... Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui est la personne qui se demande qui suis-je? Lorsque je réagis, tu deviens un observateur total, d'abord. Un observateur total, tu es conscient de tout ce que tu dis. Enfin, c'est peu à peu vers ça que tu tends. Tu deviens attentif, extrêmement attentif. Tu as des exercices d'attention même qui sont... Et pour un écrivain, c'est formidable parce que tu deviens ton propre matériau pour comprendre l'esprit humain, comment on réagit, pourquoi, comment se déclenche la passion, par exemple, ou la haine. Tu peux fort bien voir naître ça, ces genres de ficelles, les ficelles émotives. Tu peux voir à quel point tu te construis une sorte de monde qui va t'empoisonner l'existence pendant des années. Ça commence par des minutes, puis ça finit par des années. Tu peux voir comment le ressentiment naît, par exemple, en toi, comment tu te mets à développer des phobies. C'est passionnant, parce que moi, c'est mon matériau de base, c'est sur ça que j'écris. Mais ça devient pas innocent, parce que je suis sur le chantier moi-même. Donc, je me mets à regarder moi-même comment je réagis, comment je fonctionne. Et à un moment donné, je m'aperçois que toutes mes réactions sont des constructions. Alors, qu'est-ce qui reste? Tu essaies de dissiper les constructions, de revenir avant la construction, avant toute construction dans ton esprit. Et avant toute construction, ben, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Alors, c'est ça, finalement. Tu commences à comprendre ce que les bouddhistes disent par cette espèce de vacuité, le vide, le fait que j'existe, donc j'existe pas. Tu commences à saisir ça et c'est quelque chose d'extrêmement terrifiant. Alors, tu repousses ça, mais une fois que tu as entrevu, cette espèce de réalité ultime-là, tu y reviens toujours. C'est comme entre-ouvrir une porte et tu sais que cette porte-là est le seul accès qui soit. Alors, fatalement, tu dois passer par cette porte-là. Quelle est concrètement cette discipline-là? Quelle est la base pragmatique de cette discipline-là? C'est pas les livres. C'est-à-dire que les livres sèment des étincelles de compréhension, mais aussitôt qu'on embarque dans la vie, on est rattrapé par notre brouhaha, notre tourbillon. Alors, il y a fatalement, on est obligé face à nous-mêmes de passer par là, c'est la méditation. J'ai été très, très, très longtemps réfractaire à la méditation à cause de toute l'aura nouvel âgeux que ça comporte à cause de la méditation transcendantale des années 70 où il y avait beaucoup de tripage. J'ai longtemps considéré ça avec une sorte de dédain d'occidental. Et puis, de toute façon, je me suis rendu compte que la méditation n'est rien d'autre que ce que tu en fais. Il y a encore énormément de tripes puis d'illusions, sans doute, dans ce genre de pratique-là. Mais la méditation, c'est simplement s'asseoir dans une certaine posture qui t'incite à ne pas t'endormir, donc le dos droit, qui est la base, d'ailleurs, de tout travail quand tu écris. T'es mieux de t'asseoir le dos droit pour que ton énergie vitale et ton sang circulent, que ton cerveau soit alimenté. Donc, le dos droit. Et simplement, tu te regardes penser. Tu ne fais rien. Tu essaies de ne pas manipuler tes pensées. C'est simplement ça. Tu ne penses pas à un Dieu, à une spiritualité, à un guide, à quoi que ce soit d'ésotérique. C'est aussi plat et ordinaire que de s'asseoir et de ne rien faire, même pas penser. Fatalement, tu penses parce que tu t'aperçois comment les pensées jaillissent dans ton cerveau, mais tu ne les suis pas. Tu les regardes passer et tu t'aperçois que chacune de tes pensées, aussi forte en émotion soit-elle, si tu ne la suis pas, elle tombe. C'est rien, c'est de la poussière, c'est du vent. Alors, tu t'assois là parmi ces vents-là qui lèvent en toi. Et il y a des fois où tu t'assois puis tu es dans un état de grand calme. Et d'autres fois, tu es dans un état d'agitation terrible. Mais il n'y a pas de moments qui sont bons ou qui sont mauvais. C'est simplement, tu es présent. C'est un exercice de présence. C'est un exercice de présence. L'immobilité fait que tu te laisses moins emporter par les distractions, mais c'est un exercice de présence au moment présent. C'est un fait que ce qu'on retient beaucoup du bouddhisme dans les lectures ou dans les témoignages ou dans les expériences qu'on peut rencontrer de gens qui pratiquent, ou il y a la notion de paix. Bon, la notion de paix, la notion de non-violence. On voit d'ailleurs le Dalai Lama. On voit aussi comment ça ne donne pas de résultat. En le cas du Tibet, la non-violence n'apportera pas la liberté au Tibet, visiblement. Les Tibétains commencent à se le dire. Moi, je vois ça comme je vois ça comme un premier leurre, mais un premier leurre sans doute essentiel. Au début, il faut bien que tu cherches quelque chose pour toi-même, parce que ça demande trop d'efforts. Il faut que tu sentes que tu as une gratification. Alors, les gens, oui, se dirigent beaucoup vers le bouddhisme parce que dans le bouddhisme, il y a une sorte d'apaisement, mais c'est pas vrai, c'est pas du tout un apaisement que ça donne. Ça peut donner au contraire une sorte de... Ça donne beaucoup de lucidité. Est-ce que la lucidité est un apaisement? Pas toujours. La plupart des gens que je connais, moi, qui sont intéressés par le bouddhisme, c'est jamais au début la spiritualité du bouddhisme qui les intéresse, c'est la philosophie. Parce que dans le bouddhisme, ce qu'on dit, c'est empoigne la réalité maintenant, deviens un être libre et tente de mater tes démons. Retrouve dans le fond un sentiment d'éternité dans ton peu de durée. Au début, ça nous apporte... On devient comme des espèces de drogués parce que j'en connais des débutants. Quand on commence à lire ces livres-là, je pense au livre de Trungpa, par exemple, « Pratique de la voie tibétaine » ou « Shambhala ». ou des livres sur le zen. Tu commences à lire ça et tu as vraiment l'impression de retrouver des choses que tu connais depuis toujours. C'est une sorte de sagesse fondamentale que d'ailleurs tu retrouves chez Montaigne, que tu as retrouvé chez les philosophes grecs. Tu sens dans la sagesse humaine des fondements qui sont similaires, qui sont pas tributaires de la société, de l'histoire, qui sont comme donnés à l'être humain. Il y a des fondements dans la sagesse, dans l'action humaine. Comment un être sage pourrait agir dans l'existence? Tu as ça dans ces livres-là. Tu as une sorte de, je dirais pas, de, c'est pas du tout des dictats, mais tu as des... C'est même pas des directives, c'est des non-directives, justement. Des non-directives vers un être humain de plus en plus libre, de plus en plus sain, je dirais. Il y a beaucoup de questions de santé mentale. Et après, lorsque tu commences à travailler vraiment, parce qu'au début, tu lis, tu refermes le livre et tu as l'impression, parce que tu as l'impression d'avoir compris, tu as l'impression que tu es déjà un homme nouveau, une femme nouvelle, mais pas du tout. C'est pour ça que je te dis que c'est très insidieux et très douloureux, d'une certaine façon, la pratique bouddhiste et la pratique de la méditation, parce que tu t'aperçois que l'ego dont tu parles, l'ego auquel tu t'accroches, tu t'aperçois que c'est de plus en plus du vent. Alors, qu'est-ce qui fait, par exemple, que tu es Mohamed de Tufi? Si tu avais à te décrire, là, qu'est-ce que tu décrirais? Bon, moi, je ne peux pas répondre à ta place, mais je peux répondre, dire, par exemple, qui suis-je? Bon, je peux dire, je suis la seule chose que je peux dire qui est vraie, là, qui va rester vraie le temps de ma vie humaine, c'est que je suis une femme. Je peux même pas dire que je suis une femme blonde, parce qu'un jour, je vais être blanche, ou j'aurai plus de cheveux, mais je vais être blanche, plus vraisemblablement. Est-ce que je peux dire que je mesure, que je pèse tant de livres, mais peut-être que dans 5 ans, je pèserai plus ça? Bon, est-ce que je peux dire que je suis quelqu'un qui aime l'écriture, qui pratique l'écriture? Oui, mais d'un coup, dans 10 ans, je n'écris plus. Est-ce que je peux dire que je suis quelqu'un qui est foncièrement orgueilleux? Mais je peux changer. C'est parce qu'on change sans arrêt. On s'aperçoit finalement que ce qu'on croit être le moi, mon moi, c'est quelque chose de très troublant, parce que ça évolue continuellement. Ça se dissipe, ça change, on change sans arrêt. Alors, qu'est-ce qui reste de tout ça? Il reste une couleur. On aura apporté notre couleur, mais cette espèce de moi auquel on s'accroche. Il reste une femme. C'est tout ce qui reste. Mais c'est pas mal. C'est
quand même pas mal.
Bon, le bouddhisme, oui, le bouddhisme est une mode. Chez les jeunes, je sais pas, peut-être. Puisque c'est une mode, ça doit en être une chez les jeunes. Comment dire, j'ose les artistes beaucoup. Je pense par exemple aux États-Unis, il y a des mouvements très forts pour la libération du Tibet chez les acteurs américains. Bon, chez les artistes, c'est autre chose. Comment dire, c'est peut-être un mouvement chez les artistes vieillissants. Il y a vraiment, comme je te disais tout à l'heure, un mouvement, un désir de vérité, un désir d'authenticité qui peut faire qu'on est attiré vers ces enseignements-là qui parlent d'être là et d'être authentique. Il y a aussi des évasions. Ça peut représenter une évasion. Mais j'aime mieux ça. Je conseillerais ça davantage comme évasion que la cocaïne, disons. C'est une évasion qui risque de déboucher sur la lucidité. J'en reviens toujours à la lucidité, ce qui n'est pas le cas de la cocaïne. Donc, tâtez-en, je dirais à tout le monde, lisez ces textes-là, essayez ça. Peut-être que si vous cherchez une excitation ésotérique, vous allez vous écœurer, vous allez trouver finalement qu'aussitôt qu'on gratte, ça devient trop vrai. Parce que on n'échappe pas à la vie réelle, au contraire, on entre de plus en plus dans la vie réelle avec cette pratique-là. Mais au début, il y a quelque chose de très excitant, exotique, bien sûr, parce que c'est oriental. D'ailleurs, dans les années 70, chez les jeunes, ça a été foudroyant, le succès que le bouddhisme a rencontré. C'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est introduit en Amérique du Nord, aux États-Unis, entre autres. Mais c'est pas mauvais, ça peut pas être mauvais. ceux qui vont prendre ça comme un divertissement auraient utilisé un autre divertissement. Alors, divertissez-vous.
Thank you.